RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Ce matin, on donne la parole aux vivants non humains. Ça peut vous paraître étrange, mais si vous restez à l'écoute, et vous entendrez peut-être la voix des insectes, des champignons, des mammifères et de tout le vivant. Ils viendront nous dire qu'ils sont en péril du fait de nos modes de vie et en particulier de l'utilisation de produits phytosanitaires qui les tuent. On se demandera d'ailleurs quelles alternatives existent à ces produits. Le pape François lui-même, dans le sillage de Saint François d'Assise, a invité dans l'encyclique Laudato Si à se relier au vivant. Et justement, aujourd'hui, jour pour jour, on célèbre les 9 ans de ce texte marquant. Qu'en reste-t-il? C'est ce que l'on se demandera à partir de 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Venez nous dire si vous avez conscience de l'ampleur de l'érosion de la biodiversité. Dites-nous si vous savez quelles en sont les conséquences et si vous comprenez pourquoi il est aussi difficile de ne plus les utiliser. Parlez-nous aussi d'initiatives qui montrent qu'il existe des alternatives et qu'un monde sans pesticides serait peut-être possible. 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Bonjour Anne Kerléo.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
On parle donc de la riposte du vivant hein, ce matin. Quelle est l'actualité de la question ?
Ben, ça dépend ce que vous entendez par là. En fait, la question n'a jamais cessé d'être d'actualité, depuis notamment la publication en 1962 du livre « Printemps silencieux » de la biologiste américaine Rachel Carson, considéré par de nombreuses personnes comme l'acte de naissance du mouvement écologiste. Ce livre fut un best-seller aux États-Unis et provoqua une prise de conscience dans l'opinion des conséquences des pesticides et plus globalement de la pollution sur l'environnement. « Printemps silencieux » a contribué à l'interdiction du DDT en 1972. Mais aujourd'hui, plus de 60 ans après la sortie de ce livre, l'Europe ne parvient toujours pas à mettre fin à l'usage de ces produits qui tuent le vivant. Ils semblent indispensables à notre vie, à nous les humains. Alors, est-ce vraiment le cas? Quel est leur impact? Existe-t-il des alternatives? C'est ce qu'on va se demander au cours de cette émission, Melchior. Une émission montée en partenariat avec le média La Corneille, dédiée à la biodiversité, et qui a réalisé une série intitulée justement La riposte du vivant.
Et pour en discuter jusqu'à 10h, on a le plaisir d'accueillir plusieurs invités ce matin.
Oui, et d'abord Alban Leduc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes justement le rédacteur en chef de ce média en ligne La Corneille. Alors, La Corneille se définit comme la newsletter qui donne des nouvelles du vivant. C'est un média entièrement dédié à la biodiversité. Dans un instant, on va parler de cette série, La riposte du vivant, donc qui donne la parole, Melchior le disait, à des vivants non humains. Alors, vous nous expliquerez comment vous y êtes pris pour les faire parler. Avec nous également Claire Carrière, bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, vous avez contribué à la riposte du vivant. Vous êtes vigneronne dans l'Hérault, entre Béziers et Pézenas, sur le domaine Carrière Pradal, un domaine de 60 hectares en bio depuis 20 ans déjà, dont 20 hectares en agroforesterie. Vous n'utilisez pas de pesticides. Vous pourrez nous parler concrètement donc des alternatives qui existent. Vous avez aussi planté 7 km de haies ces 10 dernières années. Alors ces haies, on en a pas mal parlé récemment à l'occasion de la révolte du monde agricole. Vous nous expliquerez pourquoi elles sont importantes et puis comment on peut s'y prendre pour justement en planter de ces haies. Et puis on va accueillir une troisième invitée. Alors elle est coincée pour l'instant dans un train ou peut-être qu'elle en est sortie, mais on va l'accueillir bientôt. Elle s'appelle Frédigène Richard. Elle est enseignante-chercheuse en écologie et comportement des invertébrés à l'université de Poitiers. Et puis elle dédie aussi du temps à sensibiliser le public aux questions de biodiversité. Elle a créé un jeu de société sur les abeilles et elle travaille justement sur l'impact des produits phytosanitaires sur la biodiversité. Elle a contribué à la série La riposte du vivant. On espère qu'elle va pouvoir bientôt nous rejoindre, Melchior.
Oui, on remercie l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille ce matin à Paris et justement, elle n'est pas très loin du studio. Je rappelle que vous pouvez réagir en temps réel à cette émission au 04 72 38 20 23 ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Alors, je vous propose qu'on entre, Alban, avec vous dans cette série La riposte du vivant. Peut-être d'abord un mot sur La Corneille, ce média en ligne.
Oui, alors donc La Corneille, c'est un nouveau média totalement en ligne et entièrement dédié à la biodiversité, puisqu'on a fait le constat qu'on commence à parler beaucoup dans les médias de climat, d'environnement, mais il y a encore très peu d'informations sur la biodiversité. Donc c'est un peu notre ambition de montrer que tous les jours, il y a des actualités vraiment importantes pour notre quotidien, importantes pour notre avenir, qui se jouent. Et donc justement, la Corneille, on s'en fait un peu l'écho.
Alors, avec cette série, La Riposte du Vivant, vous donnez la parole aux vivants, aux vivants non humains, ça peut paraître un petit peu étrange. Comment vous y êtes pris, puis comment vous avez imaginé le dispositif?
En fait, c'est parti d'un constat, justement, pendant la crise agricole, pendant le moment où il y a eu beaucoup d'expressions de colère des agriculteurs, le salon de l'agriculture, et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment du mal à entendre l'autre partie du débat, celle sur justement les impacts environnementaux, les impacts de notre façon de produire, de nos systèmes agricoles. Et donc on s'est dit que comment est-ce qu'on allait mettre en avant la parole du vivant non humain qui était totalement absent du débat. Et donc en fait on s'est rendu compte que il y avait énormément de scientifiques, énormément d'études qui parlaient des impacts du système agricole sur toutes les catégories du vivant, et on a décidé de leur donner la parole en demandant aux scientifiques de prendre la plume, d'écrire eux-mêmes des lettres à destination du grand public, à destination des décideurs, à destination des industriels qui fabriquent des produits phytosanitaires, pour leur dire combien sur le front de la nature, dans les champs, au niveau du système agricole, justement, il y avait des conséquences sur les différentes espèces, donc les animaux, les plantes, les champignons. Et donc c'est là qu'est partie cette idée de riposte du vivant.
J'en profite pour saluer Freddy Jeanne Richard qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Alors j'ai déjà informé les auditeurs de qui vous étiez. Merci de nous rejoindre. Votre train a fini par arriver finalement pas trop tard. Alors vous avez écrit, Freddy Jeanne Richard, l'une de ces lettres du vivant. On l'écoutera plus tard dans l'émission. Je vous propose de vous lire justement pour comprendre, Alban, de quoi il en retourne, une de ces lettres. Alors c'est la lettre c'est la riposte des mammifères. C'est la lettre d'un dauphin écrite par Wilfried Sanchez, il est directeur scientifique adjoint à l'IFREMER, et je vous la lis. Cher vous tous, la météo est clémente et nous venons de commencer notre migration. Si tout se passe bien, vous pourrez bientôt nous observer sur vos côtes. Si tout se passe bien, car nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre ces molécules chimiques que vous avez utilisées pour protéger vos récoltes, pour embellir vos jardins et vos terrains de golf, pour nettoyer vos bords de route. Et même, depuis plus de 30 ans, vous avez choisi de ne plus utiliser certains et de les remplacer, même si vous avez choisi de ne plus en utiliser certains et de les remplacer, notre guerre se poursuit. Elle se poursuit car dans notre monde, ultime réceptacle de vos pollutions, ces molécules toxiques demeurent. Dans notre monde, ces molécules se transforment en de nouvelles molécules toxiques. Dans notre monde, ces molécules se mélangent pour démultiplier leur action. Notre corps est imprégné, il est fragilisé. Je vois bien que plusieurs de mes compagnons de route sont plus sensibles à la maladie. Il n'est pas certain que vous puissiez les observer en train de nager ou de sauter dans les vagues. Peut-être verrez-vous leurs photos dans un article de presse s'émouvant de leur sort. Pour ma part, j'espère pouvoir ravir cette année encore le regard des enfants qui m'observent depuis la plage. Alors, le combat continue. Mais vous aussi, entrez en guerre. Éliminez ces molécules toxiques qui m'empoisonnent, moi et mes compagnons. Éliminez ces molécules toxiques qui vous empoisonnent. Affectueusement, dauphin bleu et blanc, Stenella ceruleolalba. Je ne sais pas si j'ai bien dit le nom latin.
Ah, c'est toujours compliqué, hein, les noms latins.
Pourquoi vous les avez mis d'ailleurs, vous les mettez à...
Parce que justement, nous, l'idée aussi, c'est de rendre un peu public et de vulgariser le savoir naturaliste. Et donc, à chaque fois, on trouve que c'est quand même important de mettre exactement le nom scientifique de chaque espèce qu'on met en avant.
Freddy Jeanne Richard, pourquoi vous avez répondu positivement, vous, scientifique, qui étudiez pas les mammifères mais les insectes, à cette proposition de la Corneille?
J'ai trouvé l'approche très originale et assez douce, parce que c'est vrai que les animaux, ils s'écrivent pas de lettres. Et donc, on arrive sur une composante qui est liée à notre société, à l'humain. Et peut-être qu'en lisant ces lettres, les gens seront peut-être davantage touchés de l'impact qu'on peut avoir sur cette biodiversité.
Claire Pradal, vous n'avez pas écrit de lettres, mais je crois que vous êtes aussi en lien d'une manière ou d'une autre avec la démarche.
Oui, bah oui, voilà, nous, on est en bio depuis plus de 20 ans, donc c'est-à-dire sans l'utilisation de pesticides, on a décidé d'aller vers une viticulture plus responsable, plus durable, d'où le passage en bio qui était une réelle conviction. Et puis on a été plus loin il y a une dizaine d'années avec cette agroforesterie, c'est-à-dire réintroduire d'autres espèces de plantes au sein de notre vignoble pour ramener plus d'insectes, plus d'oiseaux, plus de vivants et rentrer en symbiose avec nos vignes.
Comment est venue la démarche il y a 20 ans? Alors je crois que c'est pas vous, hein, c'est parce que le domaine il est dans votre famille depuis longtemps, mais il y avait cette conscience-là visible d'une érosion du vivant déjà il y a 20 ans. Qu'est-ce qui a présidé à la démarche?
Oui, en fait voilà, tout a commencé ma belle-mère, hein, Catherine Carrière-Pradal, qui est vraiment à l'initiative de toute cette démarche. Elle est pro pour le vivant. Donc à titre personnel, voilà, elle a un très grand jardin potager qu'elle pratique en permaculture, où elle a vu, c'est vraiment ces associations de plantes entrant en symbiose les unes avec les autres pour recréer un écosystème. Et elle s'est dit, voilà, dans notre paysage qui est aujourd'hui principalement sur de la monoculture, il faut qu'on fasse évoluer les choses, puisque voilà, on a cette perte de biodiversité, aussi bien sur de la faune que de la flore, et il faut changer nos façons de faire.
Alors, on entend bien que c'est très compliqué de changer les façons de faire et qu'il y a aussi des prises de parole et des questionnements légitimes de la part du monde agricole. Quand des personnes disent on a toujours fait comme ça, on ne sait pas faire autrement et si on ne fait pas ça, on ne va pas s'en sortir et on ne va pas pouvoir vivre de notre métier. Peut-être Alban d'abord, quand vous entendez ça, c'est pas quelque chose qu'on peut passer comme ça d'un revers de main par pertes et profits.
Oui, non, c'est sûr qu'il y a énormément de changements. Enfin, c'est pas d'un coup de baguette magique qu'on va se passer des pesticides, des produits phytosanitaires, et on le voit bien. Et c'est pour ça que là, même cette semaine, on a encore vu les chiffres de la production en bio qui a encore baissé. Donc on voit qu'en fait, quand on met pas un changement complet dans le système agricole et qu'on n'aide pas un petit peu, qu'on aide à la transition, ça ne va pas marcher. Mais pourtant, la solution, elle est quand même disponible, elle est quand même là. Enfin, on le voit même avec des exemples concrets comme ça. On peut très bien produire sans produits phytosanitaires et on peut très bien trouver des alternatives.
Justement, Claire Carrière, ça s'inscrit sur 20 ans. Il y a toute une partie du temps où il faut accepter de dégager moins de revenus. Comment ça marche, quoi, la conversion, le passage?
Oui, tout à fait. Le passage au bio, ça a été une première étape il y a 20 ans de ça, vraiment, pour aller dans une viticulture plus durable. Et l'agroforesterie, on est vraiment au tout début de l'histoire, puisque quand on vient planter ces haies, faut savoir qu'on plante vraiment des tout petits sujets, puisqu'on en plante vraiment des centaines et des centaines. Donc c'est vraiment des projets, des aventures de vie sur 20-30 ans. Là, voilà, l'agroforesterie, on l'a mis en place il y a une dizaine d'années, mais on en est vraiment au tout début de l'histoire. C'est vraiment quelque chose pour les générations futures, et puis aussi d'inciter d'autres vignerons, et puis d'engager des consommateurs aussi sur ces questions-là. Donc c'est vraiment sur une très longue période.
Il est 9h17 dans Je pense donc j'agis. Vous l'entendez, ce matin, on parle de la biodiversité, notamment de l'ampleur de l'érosion de la biodiversité. Dites-nous si vous en avez conscience et quelles sont les conséquences de ces produits qu'on évoque aussi depuis le début de cette émission. Et si vous comprenez pourquoi il est aussi difficile de ne plus les utiliser. Parlez-nous d'initiatives qui montrent qu'il existe des alternatives et qu'un monde sans pesticides serait peut-être possible. On vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
toujours avec nos trois invités, Frédéjeanne Richard, Claire Carrière et Alban Leduc. Je vous lis juste un message qu'on a reçu d'une auditrice, Anne, elle s'appelle Françoise, elle nous dit « Bonjour, vous utilisez depuis le début de l'émission vivant non humain, pourquoi pas espèce vivante animale ou espèce vivante végétale ?» Et je trouve ça intéressant. Alors on a tenté une explication en début d'émission, peut-être que ce n'était pas assez clair. Peut-être Alban Leduc pour expliquer.
Oui, ben on parle là de vivants non humains, on peut inclure les humains. Bien sûr, quand on parle de vivants, c'est justement toutes les espèces vivantes, et pour un petit peu montrer le focus sur le fait que ce n'est pas seulement les animaux, c'est pas seulement les plantes, mais un petit peu tous les êtres vivants au sens large. Et donc nous, justement, on a fait des lettres avec toutes les différentes catégories, enfin, donc sur les mammifères, les oiseaux, les insectes, mais même des lettres de micro-organismes. Donc on a une chercheuse qui a écrit une lettre du point de vue d'une bactérie qui est dans notre intestin et qui nous parle et qui nous dit voilà, ça va pas très bien depuis les pesticides. Donc c'est vraiment un mot pour inclure le plus possible. Et d'ailleurs on fait aussi une lettre du point de vue des humains, du point de vue d'un enfant qui est impacté par les pesticides même avant sa naissance. Donc c'est un peu l'idée de donner la parole à toutes les catégories, tous les individus qui ne l'ont pas aujourd'hui dans le débat public.
Et d'ailleurs, si les auditeurs, les auditrices, pendant qu'ils nous écoutent, veulent aller voir à quoi ressemblent ces lettres, peut-être oui. L'adresse du site.
Elles sont disponibles, oui, sur le site. Donc le site, c'est lacorneille.fr, et donc vous pouvez. Donc on a une newsletter toutes les deux semaines, deux fois par mois, où vous avez justement toutes les actualités sur la biodiversité, sur le vivant, et donc vous pouvez retrouver ces lettres écrites par des chercheurs et des chercheuses.
Et si vous ne les trouvez pas tout de suite, c'est ce qui m'est arrivé, vous tapez dans l'outil de recherche la riposte du vivant et vous allez les trouver. Frédéjeanne Richard, peut-être c'est important pour qu'on ait une vision un peu claire de ce dont on parle, de donner quelques chiffres ou quelques tendances. Quand on parle de l'érosion de la biodiversité, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est son ampleur en fait? Si on prend par rapport à 62 quand Rachel Carson publie Printemps silencieux par exemple.
Cette érosion de la biodiversité, il est mesuré à plusieurs niveaux. À la fois, vous avez une perte d'habitat, par exemple de zones humides, et donc des espèces qui vivent dedans. Et vous allez avoir aussi des pertes des espèces. C'est-à-dire, il y en a de moins en moins. Par exemple, on a à peu près des espèces de vertébrés en moins par an.
Donc, combien?
Deux espèces de vertébrés en moins par an. Cette perte d'espèces et de nouvelles espèces, c'est des phénomènes dynamiques hein, qui existent depuis longtemps, mais c'est juste que ça s'accélère énormément ces dernières années. Alors en plus de pertes d'espèces, ou par exemple depuis 1970, on a plus de la moitié des vertébrés hein, qui ont disparu.
Donc là, c'est en nombre d'individus?
Non, là, c'est
espèces confondues ou
espèces aussi. Espèces. Alors par contre, en termes de nombre d'individus, vous avez par exemple 3 milliards d'oiseaux hein, qui ont en moins depuis 1970 aux États-Unis. Il y a une grosse étude qui est sortie là-dessus. En ce qui concerne les insectes, il y a eu une étude qui avait été réalisée en Allemagne qui montrait qu'on était à plus de moins 70%. Là, on est en termes d'abondance d'individus. Et j'aurais bien aimé reprendre une métaphore que vous avez utilisée, qui est celle de la baguette magique. Eh bien, je m'étais fait exactement la même remarque il y a quelques temps. Les pesticides, c'est comme une baguette magique. Hop, on met. Et l'insecte qui est ravageur, et les autres d'ailleurs, disparaissent. On met les champignons, disparaissent. Sauf que ce n'est pas une baguette utilisée par une fée, c'est une baguette utilisée par une sorcière.
Et alors, Claire Carrière, vous qui n'êtes pas une sorcière pour le coup, est-ce que vous avez une autre baguette magique de fée pour remplacer les pesticides?
Alors nous, on est déjà liés à notre cahier des charges bio, donc qui nous limite dans nos interventions, et puis notre baguette magique on l'espère supplémentaire, c'est vraiment ces haies d'agroforesterie qui vont recréer des habitats pour les espèces à la fois d'oiseaux, d'insectes. Qui vont venir repeupler notre environnement et qui vont venir lutter naturellement contre les ravageurs de la vigne. Alors je prends un petit exemple. On a fait une petite étude avec le Conservatoire des espaces naturels l'année dernière, qui suit notre domaine sur 3 ans, qui ont dénombré 5 espèces de chauves-souris sur notre espace. Et puis, ces chauves-souris vont venir nous aider à la lutte naturelle contre le ver de grappe, qui est un des ravageurs de la vigne. Donc voilà, c'est notre petite baguette magique. C'est déjà une première étape. Et aujourd'hui, ça fonctionne. On limite nos interventions.
Parce que finalement, Frédéric Jeanne Richard, quand on utilise des pesticides, on tue ce qu'on appelle des nuisibles, mais on tue aussi potentiellement leurs prédateurs qui pourraient finalement être la solution.
Tout à fait. On va tuer les espèces qui sont dites cibles, mais on a aussi un impact sur des espèces non cibles. Et de toute façon, dans ces espèces non cibles, le spectre est souvent beaucoup plus large. C'est-à-dire, par exemple, quand on va utiliser un insecticide qui est fait pour tuer les insectes, on va tuer, par exemple, le lépidoptère, comme ce qui a été évoqué, un papillon, mais on va également tuer d'autres insectes qui vont fonctionner un petit peu de la même façon. On va contaminer l'environnement et on peut aussi avoir des impacts sur d'autres espèces qui ne sont pas forcément des insectes, donc y compris l'humain. Et là, ça s'appelle des effets non létaux. Et d'ailleurs, moi, je m'intéresse, dans le cadre de mes recherches, à ces effets non létaux sur des organismes non cibles.
C'est-à-dire que ça ne va pas tuer les individus en question, mais ça va modifier les écosystèmes?
Ça va modifier leur comportement, leur activité, les services qu'ils peuvent rendre ou leur santé.
Je vous propose de lire la lettre que vous avez écrite, Frédéric Jeanne Richard. Alors c'est la riposte des insectes. Chère maman, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi les choses simples deviennent compliquées et que malgré notre travail et nos efforts, ma colonie ne va plus bien? Depuis ton départ, j'ai mis beaucoup d'énergie pour repeupler la colonie. En ce moment, nous sommes plus de 30 000. Aujourd'hui, j'ai besoin de tes conseils, de ton expérience. Notre prairie multicolore est toute jaune cette année. Mes filles apprécient le nectar de cette fleur et notre récolte est excellente. Mais voilà, les choses se sont compliquées. Tout d'abord, certaines de mes filles qui étaient en pleine forme ne reviennent pas. Je suppose que tu penses tout de suite à l'arrivée du frelon et autres prédateurs. Mais celles qui reviennent n'ont rien vu de particulier, tout semble normal. Encore plus étrange, mes filles prennent leur premier envol trop jeunes. Elles ont seulement 8 jours et partent déjà. Un autre phénomène étrange est le changement de comportement des butineuses. Figure-toi qu'elles ramènent du pollen de façon excessive. Je suis un peu en panique et j'ai du mal à pondre correctement. Il est peut-être temps pour moi de laisser la place. Mais les futures reines des colonies voisines ne reviennent pas de leur vol nuptial. La relève semble difficile. Il se passe des choses étranges. Il nous arrive de recevoir de la pluie avec un grand ciel bleu avant le coucher du soleil ou au petit matin. Le bruit court que ces pluies seraient en réalité une pulvérisation de produits chimiques pour protéger les plantes. S'il s'agissait d'insecticides, de nombreuses filles seraient mortes. Mais avec le recul, tous nos problèmes sont arrivés après ces pluies étranges. Maman, il faut qu'on parte, mais pour aller où? Je t'embrasse abeillement, ta fille qui t'aime, Mellifera 8. Comment c'est venu l'inspiration pour écrire ce texte?
J'ai mis un petit peu de temps. Et au départ, j'étais pas forcément partie là-dessus. Et là, en fait, je décris les résultats d'une publication de 2023 où on a montré les effets, justement, donc d'un fongicide donc qui devrait attaquer les champignons et qui va avoir des effets non létaux sur les reines d'abeilles avec des conséquences sur leurs ouvrières et notamment qui vont augmenter leur consommation en protéines, donc en pollen. Donc en fait, tout ce qui est écrit, c'est vrai, c'est ce qui se passe. Et quand on a fait nos élevages de rennes, la plupart des rennes ne sont pas revenues du vol nuptial.
Ce que décrit Frédéric Jeanne Richard, Alban Leduc, c'est quelque chose qu'on peut évoquer, alors selon des processus peut-être un peu différents, mais pour plein d'autres espèces?
Oui, bah justement, c'est un petit peu l'intérêt de notre série, La riposte du vivant, c'est de montrer que vraiment les pesticides, enfin les différents insecticides, les herbicides, les fongicides, ont des conséquences sur toutes les catégories du vivant, Et donc, justement, de montrer que ça a des implications vraiment dans les très très loin et pour toutes, presque toutes les espèces aujourd'hui, en tout cas en Europe. Et justement, c'est ça que on voulait montrer. C'est vraiment des scientifiques qui écrivent ces lettres. Donc, c'est pas seulement « oh les beaux papillons » ou « oh les belles abeilles », etc. Ça a vraiment des implications concrètes. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur l'expression. Bah, la baguette magique qu'on a utilisée avec les pesticides, maintenant, en fait, cette baguette magique ne marche plus parce que on arrive à un problème puisque certaines espèces développent des résistances face à ces pesticides. Et donc, c'est ça aussi l'intérêt de montrer qu'il faut en changer.
Et on va continuer d'en parler dans un instant, toujours avec vous trois et vos appels au 04 72 38 20 23. On entendra Marie après cette petite pause. Vous pouvez également témoigner par mail à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense donc que j'agis. On parle de la biodiversité ce matin avec nos trois invités. Alban Leduc, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du média en ligne La Corneille. Frédy-Jeanne Richard, enseignante-chercheuse en écologie et comportement des invertébrés à l'université de Poitiers. Et Claire Carrière qui a contribué à ce numéro de La Corneille, la riposte du vivant. Vous êtes vigneronne dans l'Hérault. Bonjour Patrick.
Allô?
Oui Patrick, vous êtes là?
Ah oui, bonjour.
Bonjour. Coupez votre radio derrière et voilà. On vous écoute.
D'accord. Oui, d'abord, merci pour cette émission. Il y a bien que vous qui parliez de l'écologie actuellement sur les radios. Et j'étais très touché par la lettre du gentil dauphin triste qu'on a lu tout à l'heure. Et moi-même, quand je me promène par les chemins, enfin à travers les champs, j'ai constaté une chose assez... Enfin, qui n'est pas d'aujourd'hui, mais il n'y a plus de coquelicots dans les champs. Il y en a au bord un peu, ils reviennent un peu au bord des chemins, mais dans les champs, il n'y en a plus. Il n'y a plus de coquelicots, il n'y a plus guère d'oiseaux des champs, il n'y a plus grand-chose. Et je me disais, enfin bon, il y a une part politique peut-être dedans, je ne sais pas, mais enfin, je les écoute, mais ils n'en parlent plus, quoi. Ils ne parlent pas de ça. Ça leur est complètement égal, alors que l'heure est grave. Et tout ce que disent vos invités est vrai, heureusement qu'ils sont là. Ça fait vraiment du bien, ça donne un peu de morale pour l'avenir, pour les générations futures, parce que qu'est-ce qu'on va leur laisser? Donc je me posais la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre tous ces produits qui nous envahissent, qui polluent, qui sont dans l'air, dans les rivières, devant ces puissances-là, que faire?
Bonne question, merci beaucoup Patrick pour votre appel au 04 72 38 20 23. Claire Carrière, alors c'est intéressant, voilà, il se demande vraiment Patrick, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces produits? Et puis où sont passés les coquelicots?
Ah, on en a des coquelicots chez nous. Non, mais c'est vrai que nous, on a démarré toute cette dynamique d'agroforesterie il y a 10 ans. Et maintenant, ma belle-mère Catherine Carrière-Pradal, qui est en retraite, bah, elle est toujours très active pour nous coacher, nous accompagner, à la fois nous, la nouvelle génération, mais aussi c'est une dynamique collective. Donc, on essaie d'engager d'autres vignerons de notre territoire, de communiquer, d'accueillir sur le domaine, de former d'autres vignerons qui... ou agriculteurs qui s'intéressent sur cette question, puisque effectivement, comme l'auditeur le disait, il faut qu'on ait une démarche de plus en plus importante, de plus collective. Donc à notre petite échelle, voilà, on essaie d'engager d'autres personnes du monde agricole, mais c'est un long chemin.
Clé en fait pour réussir à faire que les agriculteurs ou les viticulteurs en l'occurrence dépassent l'impression que en fait on est toujours en train de les attaquer, de leur reprocher leurs pratiques alors qu'on leur a demandé de produire, et du coup il y a une espèce de ce sentiment de se sentir attaqué fait que le dialogue est difficile. Comment vous réussissez à passer cette barrière là et à faire que le dialogue devienne possible et peut-être petit à petit la conversion possible aussi?
C'est pour vous, Claire Carrière.
J'ai été coupée. Oui, j'ai
eu une coupure,
un petit souci de connexion.
Oui. Vous n'avez pas entendu peut-être toute la question. C'était comment on réussit, comment vous réussissez à faire que les agriculteurs que vous rencontrez aient envie d'entrer en dialogue sur la question et arrivent à dépasser le sentiment d'être tout le temps attaqués sur leurs pratiques alors qu'en fait, ils ne font que nourrir les gens finalement.
Oui, alors de toute façon, nous, ça a été. Il faut déjà que les personnes soient dans une dynamique agro-environnementale. La question, c'est souvent de ces agriculteurs, comment passer le cap ? Quels ont été les freins qu'on a pu rencontrer ? Donc c'est pour ça qu'on les accueille sur le domaine. On indique quelles ont été nos problématiques de mise en place et que aujourd'hui on commence à en avoir les bénéfices, mais il faut démarrer avec un groupe de personnes qui ont déjà cette sensibilité agro-environnementale. Et en général, le fait de passer le cap, c'est de venir sur un domaine qui a mis en place ses pratiques et qui peuvent constater que c'est faisable et qui peuvent démarrer. Donc en général, ils démarrent à petite échelle et puis petit à petit, en fonction des résultats, ils développent toute cette dynamique. Et puis il faut aussi savoir que on peut être accompagné, hein. Aujourd'hui, il y a des institutions type nous la Chambre d'agriculture qui est là aussi pour épauler les agriculteurs qui sont convaincus sur cette dynamique et puis pour les accompagner au jour le jour sur ces mises en place. On n'est pas tout seul là-dessus.
Bonjour Marie.
Oui, bonjour Melchior.
On vous écoute, bienvenue Marie.
Il y a quelques années, j'ai fait un voyage organisé dans un car en Hollande.
Oui.
Et le thème, c'était la Hollande des tulipes. Alors, bien sûr, on a vu ces immenses champs de tulipes, même visité un parc où il y avait beaucoup de fleurs très diversifiées. Et puis, on s'est éloigné des villes pour se rapprocher de la mer où l'on devait visiter un petit village qui fabriquait du fromage.
Oui.
Et tout le long de la route, de chaque côté, sur les fossés, disons, il y avait des fleurs qui poussaient. Alors, je suis quelqu'un d'assez curieux, je demande à la guide qui était montée dans le car pourquoi on nettoyait pas les fossés en Hollande. On m'a répondu que c'était des fleurs qui poussaient à leur gré, sauvages, et c'était vraiment très très joli.
Où voulez-vous en venir, Marie ?
Je veux en venir que il faut entretenir les bas-côtés des routes, je veux dire, en laissant pousser des fleurs sauvages.
Donc il faut laisser vraiment la nature travailler. Merci beaucoup Marie pour votre appel au 04 72 38 20 23. Alors après les coquelicots, vive les tulipes. Peut-être Alban Leduc pour réagir sur ce beau témoignage. Il faut vraiment, comme l'a dit Marie, elle a été scotchée de son petit voyage en Hollande. La nature, il faut la laisser travailler.
Oui, justement, c'est une des solutions qu'on a mis en évidence dans notre série. On parlait tout à l'heure de comment se passer des pesticides. Il y a des petites solutions comme ça pour mettre de plus en plus de diversité biologique autour des champs. Et donc aussi, on nous a parlé de mettre justement des fleurs sauvages autour des champs pour ramener des pollinisateurs, donc les insectes qui vont permettre aux différentes plantes de vivre et donc les pollinisateurs de polliniser les différentes plantes. Donc c'est des petites solutions comme ça qu'on a déjà en main, qu'on peut essayer de développer. Et pour réagir aussi à l'auditeur précédent, il y a énormément, notre vision, nous, c'est de pas blâmer justement les agriculteurs qui feraient mal ou qui utiliseraient des pesticides, mais c'est plutôt de dire mettons en place une sorte de collaboration, et parce que ça existe déjà, il y a beaucoup de programmes de sciences participatives avec des agriculteurs qui observent la biodiversité sur leurs parcelles et qui justement expérimentent aussi d'autres façons de faire. Donc c'est un peu nous notre vision à la Corneille, c'est de dire pour changer les choses, pour agir, il faut d'abord avoir une information, développer l'information autour de ce sujet, donc en mettant en avant les données scientifiques et peut-être après pour les traduire en mesures politiques plus tard.
Est-ce qu'il y a pas aussi un questionnement à partir du témoignage de l'auditrice autour de est-ce qu'on a besoin de champs de tulipes ? Alors après c'est une grande question pour les Pays-Bas, mais
Oui, bah ça pour le coup, les champs de tulipes, c'est aussi pareil, une agriculture intensive aux Pays-Bas, et ça c'est, on a aussi besoin d'avoir une consommation plus locale, et donc au lieu d'utiliser des plantes qui font trois fois le tour de l'Europe avant de venir chez le fleuriste, de plutôt privilégier les tulipes ou les autres fleurs que nous avons en France à côté de chez nous.
Frédéric Jeanne Richard, est-ce que vous sentez de la part en particulier, bon des citoyens mais peut-être du monde agricole en particulier, une envie de mieux comprendre finalement les mécanismes que peut-être, enfin ils mettaient des pesticides parce que bah, c'était comme ça et puis il n'y avait pas trop de questions à poser il y a quelques années, on se posait pas toutes ces questions-là. Et est-ce que vous sentez, malgré ben, le fait qu'ils sont un peu prisonniers du système parfois et que ça marche comme ça, une envie de comprendre mieux et de se référer peut-être à vous, les scientifiques ?
Je sais pas si c'est nouveau, ce problème des pesticides, parce que quand ça a commencé à arriver, ils ont quand même eu du mal à les faire accepter. Et les anciens, beaucoup refusaient de les utiliser. Ils disaient mais c'est quoi ? On fait quelque chose qui va pas. Donc ça, c'est pas du tout pour moi quelque chose de récent. Rachel Carson, en 1962, avait déjà dénoncé ça. Et par contre, elle a souffert hein, au niveau de sa carrière d'avoir dénoncé ça. Donc cette connaissance, elle existe. La prise de conscience beaucoup plus générale du public et de tous les effets secondaires et de l'importance de la biodiversité est de plus en plus médiatisé, et c'est finalement grâce aux journalistes et à certains corps professionnels que le citoyen s'empare aussi davantage de la question. Et en ce qui concerne les agriculteurs, en fait on dit les, mais en fait c'est pas tous. Il y en a beaucoup.
On en a la preuve
voilà.
Ce matin avec
et il y en a énormément qui veulent changer les choses, qui ont des très bonnes pratiques, mais c'est pas forcément en termes de surface et d'utilisation des pesticides, c'est pas les plus nombreux.
Mais, et la question qui vient souvent, c'est quand même, oui, mais avec ces pratiques sans pesticides, on ne pourrait pas nourrir tout le monde, donc il y a de la place pour toutes les agricultures, ok, mais il faut bien garder une agriculture conventionnelle assez intensive. Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Qu'est-ce que Claire Carrière, qu'est-ce que vous répondez à ça quand on vous dit ça ?
Non, parce que vous voyez, on prend l'exemple, puisque nous, toute notre dynamique d'agroforesterie, elle est née un peu du principe de la permaculture qu'on voit dans les espaces de maraîchage. Et on voit que des espaces de maraîchage arrivent à avoir des productions quand même relativement significatives avec des systèmes quasi autonomes. Donc, voilà, ça peut fonctionner.
Je vous propose d'entendre une auditrice tout de suite au 04 72 38 20 23 dans la Creuse. C'est Martine. Bonjour Martine.
Bonjour. Alors il faut que j'aille vite. Je souhaite dire que nous avons abandonné la sagesse et le travail des anciens. Bon, je dis juste quelques phrases. L'eau qui s'est, parce que je vis au-dessus de ce qui était une prairie humide et c'est devenu un marécage. Il y avait beaucoup de batraciens, beaucoup de grenouilles, un peu de toutes sortes. Elles ont à peu près toutes disparu. Alors cela m'a posé beaucoup de questions. L'eau qui circule, c'est la vie. L'eau qui reste stagnante, c'est la mort. Alors, il ne suffit pas de planter des arbres. Il faut aussi songer à leur fin de vie lorsqu'ils émettent plus ou moins de carbone. Les laisser se décomposer, ce serait produire du méthane en quantité. Le méthane, gaz au pouvoir de réchauffement 23 plus élevé que le CO2. Les concentrations de méthane ont augmenté de 150% depuis 25 ans, contre 30% pour le CO2. Les gaz à effet de serre, et en particulier le méthane, exerce un effet de forçage radiatif. Alors, le forçage radiatif mesure la variation de la quantité de rayonnement solaire piégé sur Terre.
Merci Martine, je suis désolé, mais comme vous lisez votre papier, c'est peut-être pas très naturel et on a du mal à comprendre où vous voulez en venir. Soyez naturel quand vous venez à l'antenne, c'est sympa. En plus de vous entendre, on est vraiment en train de discuter comme si on allait prendre un café. Peut-être Freddy Jeanne Richard pour réagir, on vous a vu opiner du chef.
Au début de l'intervention de Martine.
Oui, j'étais d'accord sur cette idée que les anciens, c'était ce que j'avais dit un petit peu juste avant, en avaient déjà conscience. Et voilà, et il a fallu convertir après, via les lycées aussi agricoles, où ils ont beaucoup appris comment utiliser ces pesticides. Alors, je fais un petit peu attention à ce que je dis sur l'agriculture, parce que depuis peu, j'ai réussi un concours. Maintenant, je suis directrice de recherche à l'Institut national sur la recherche agronomique et environnementale.
Et ça limite votre liberté de parole, c'est ça que vous voulez dire ou c'est...
Non, je pense pas, mais il va quand même falloir que je... je sais pas bien comment le formuler, il y a peut-être des choses aussi dont j'ai pas forcément suffisamment pris conscience sur des réalités ou des choses... Et voilà, il faut toujours rester un petit peu prudent. Et moi, je pense que surtout, ce qui pose souci, c'est plus l'agro-industrie que l'agriculture en elle-même.
Alban, vous hochiez aussi la tête tout à l'heure quand on écoutait Martine.
Oui, non, mais c'était pour dire aussi que justement, Martine parlait des amphibiens. Pour le coup, c'est ça l'objectif aussi de notre série d'articles, de montrer qu'il y a des catégories du vivant, des animaux, des végétaux, on ne pense pas forcément et qui sont aussi impactés par les pesticides. Donc les amphibiens, nous on a parlé de la tortue, une tortue qui vit dans le sud de la France et qui est aussi largement impactée par les pesticides.
Je vais vous lire sa lettre.
Ah bah voilà,
allez-y.
Chers amis de la nature, le printemps s'est installé avec la hausse des températures. Nous sortons de notre léthargie de plus en plus tôt. La promesse de belles journées ensoleillées nous donne envie de sortir prendre nos bains de soleil pour nous réchauffer la carapace après des mois de fraîcheur. Nous resterons malgré tout discrètes. Nous replongerons rapidement dans l'eau si vous vous approchez trop près. C'est en partie pour cela que nous sommes si mal connus, nous les tortues, à points jaunes. Nos populations se maintiennent bien difficilement dans les zones humides, si malmenée par l'homme. Malheureusement, avec l'arrivée du printemps, la qualité de notre eau va se dégrader brutalement, les pesticides épandus sur les champs alentours finissent leur course dans nos marais. Excusez-moi, mais je vais tout vous avouer, j'ai un peu de mal à lire parce que c'est écrit trop petit pour mes yeux vieillissants. Alors... peut-être Melchior, on va poursuivre la lecture après, parce que j'y arrive vraiment plus.
Bon, il n'y a pas de problème. Non, mais on va accueillir Christophe qui patiente au 04 72 38 23. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour à tous. C'est pas facile pour moi de parler à l'antenne parce que je suis à la fois trop spécialisé dans mon domaine et à la fois, je dirais, il faut que j'élargisse le champ de vision. Alors, si vous voulez, moi, ce que je comprends à travers votre émission, entre guillemets, c'est un peu comme un laboratoire, un peu comme le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui avait été une intuition très très forte pour l'époque quand elle avait été construite, c'est-à-dire d'utiliser les meilleurs scientifiques pour les différentes disciplines des sciences naturelles. Donc je considère, entre autres, qu'on est encore une sorte d'expérimentation sur Terre, et on n'a jamais fini d'explorer l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Et on fait tous les jours des découvertes merveilleuses et même on trouve même de nouvelles espèces. C'est ça qui est le plus extraordinaire. Alors pour ce qui concerne la chimie,
oui.
Alors parce que c'est le sujet essentiel qu'on parle aujourd'hui, oui effectivement il existe des solutions alternatives. Mais le problème c'est que si vous voulez, c'est ce que j'ai expliqué à votre collègue européenne, ceux qui détiennent la vie ou le pouvoir de la vie, c'est ceux qui conçoivent entre autres les pesticides. Donc c'est-à-dire c'est un problème de crible, on appelle ça de sélection. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut exactement en soi comme critère objectif correspondant à un but déterminé dans un sens je dirais, malheureusement, c'est là que je trouve qu'on tire le diable par la queue, c'est essentiellement commercial. Et je pense que la nature n'est pas une histoire commerciale. Ça, il faudrait bien que, je dirais, les multinationales comprennent bien ce genre de truc.
Mmh. Eh bien, écoutez, ouais. Vous avez encore quelque chose à dire, Christophe, très rapidement?
Oui, très rapidement, je dirais, on est à l'heure des choix cruciaux pour les générations futures. Je dirais, parce qu'il ne faut pas voir, c'est-à-dire plus ou moins à long terme, mais à court terme, et on ne peut plus se permettre pratiquement d'erreur à l'heure actuelle.
Merci beaucoup, Christophe. Merci Christophe. Pardon, je me permets de vous couper la parole parce qu'on arrive à la fin de cette émission. On a entendu vraiment le fond de votre témoignage et merci d'avoir pu témoigner. Alban Leduc, pour réagir.
Oui, bah justement.
Sur les générations futures notamment. Hein.
Oui, je pense que avec l'utilisation des pesticides, c'est ça qu'on voit, on compromet un peu le futur parce que c'est... Les pesticides, c'est-à-dire moins de pollinisateurs notamment, et c'est donc les pollinisateurs qui garantissent pour le coup une grande partie de l'alimentation que nous avons aujourd'hui. Donc on considère que en tout la biodiversité c'est près de la moitié de notre PIB mondial. Donc si on compromet cette biodiversité, on se compromet nous-mêmes et on compromet notre futur. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on se trouve un peu dans une impasse maintenant et que il va falloir un petit peu changer de trouver des solutions.
Et on voit qu'il y a le concept, alors je sais pas, que les auditeurs et auditrices connaissent peut-être pas encore tous, mais de One Health, qui est de plus en plus développé et qui dit que notre santé et celle du reste du vivant sont intimement liées finalement.
Oui, on s'en est rendu compte vraiment de manière assez spectaculaire avec la pandémie mondiale, que oui, la diversité du vivant, l'effondrement de la biodiversité est lié à notre santé et à des conséquences directes sur notre santé. Et c'est ça aussi qu'on a voulu montrer avec la série sur les pesticides, c'est que les pesticides touchent tous les milieux naturels, toutes les catégories du vivant, et nous touchent, nous, en particulier, en premier. Et d'ailleurs, les agriculteurs sont les premiers touchés au niveau de la santé. C'est eux qui ont les plus grosses conséquences pour le moment.
Frédéric Jeanne-Richard.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et cette idée de One Health, une seule santé, c'est vraiment pour faire prendre la conscience que, certes, quand on travaille sur des insectes ou des mammifères, on pourrait aussi travailler sur l'homme et regarder finalement dans tous les compartiments et dans l'ensemble du vivant les conséquences. Donc c'est important maintenant de plus en plus pour nous de faire des projets de recherche qui intègrent aussi plusieurs disciplines, y compris les sciences sociales.
Je vous propose de finir la lecture de la lettre que j'ai laissée en plan tout à l'heure de la petite tortue à points jaunes. Il y a quelque temps, ils nous ont prélevé un peu de sang. Ça picote, mais on espère que ça permettra d'aboutir à des mesures de protection qui profiteront à tout notre écosystème. Ils ont trouvé ce que nous redoutions. Une bonne partie d'entre nous ont des herbicides dans le sang, à force de baigner dans les eaux contaminées. Même si nous redoublons d'efforts pour éliminer ces produits, nous craignons les effets néfastes pour nous et pour nos descendants. Nous sommes le symbole de la longévité, de la sagesse, de la fertilité. Mais notre solide carapace ne nous protège pas de cette pollution invisible. Alors, cher lecteur, c'est à toi de jouer, à toi de porter notre voix, à toi de faire preuve de sagesse, et qui sait, au détour d'un chemin entre les iris et les nénuphars, tu apercevras une belle cistude à points jaunes sortir la tête de l'eau. Bien à vous, une petite cistude d'Europe camarguaise. Je ne me risquerai pas cette fois-ci à lire le nom latin. C'est un texte écrit par Leslie Anne Merlot, qui est doctorante à l'École pratique des hautes études. Et ce qu'elle dit sur la fin, peut-être Claire Pradal, c'est elle évoque les iris, les nénuphars. Vous, dans votre quotidien, finalement, vous êtes connecté à ce vivant tous les jours. Est-ce que ça, ce n'est pas une clé pour collectivement qu'on ait envie, enfin, de s'y mettre à la hauteur des enjeux?
Oui, c'est ça qui nous fait aussi nous lever le matin, de voir notre espace, qui est chantant avec tous ces petits oiseaux, de voir ces couleurs de flore sauvage. Voilà, c'est ce qui motive à la fois la famille, nos équipes, et puis c'est très visuel. Donc c'est ce qui peut aussi engager d'autres vignerons et puis rendre un cadre joli, agréable pour tout notre voisinage. Donc toute cette biodiversité, participe à rendre notre paysage le plus beau possible.
Alban, qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser au vivant au point d'y dédier, en tout cas pour l'instant, votre vie professionnelle?
Je pense que justement, c'est un petit peu cet émerveillement-là de se dire qu'en fait, il se passe énormément de choses juste à côté de chez moi, juste là, au coin de la rue même. Et qu'il y a des conséquences, on le disait, sur la santé, sur la planète entière. Et pourtant, on ne sait pas, en fait. Enfin, moi, je ne savais pas avant.
Mais comment vous l'avez su? Vous avez eu une illumination un jour? Ou ça s'est passé comment?
C'est plutôt, moi, je suis journaliste, jeune journaliste, et en fait, spécialisé sur l'environnement. Et je me rendais compte que la biodiversité, même ça, au niveau des médias spécialisés là-dessus, en fait, on passait ça sous silence. Même les ONG, les États n'en parlent très peu. Alors que, effectivement, il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup d'informations et beaucoup aussi de choses à découvrir. Parce que c'est extraordinaire, quand on fait une série comme ça, de découvrir la vie des insectes, la vie des mollusques, des mammifères, des dauphins. Et ça, pour le coup, ça donne un petit peu aussi d'espoir. Et ça permet d'avoir cette flamme-là.
Mais justement, la petite tortue à pois jaune, elle dit que, en même temps, elle est déjà empoisonnée, il y a déjà quelque chose d'irréversible. Alors, comment vous gardez l'espoir et la flamme entre les deux, quoi? La volonté de faire changer et en même temps la conscience assez aiguë, apparemment, qu'il y a déjà des choses perdues.
Oui, effectivement, des fois, c'est pas toujours facile de se dire, l'état dans lequel on est, l'état d'avancement et de détérioration est tellement avancé que c'est quand même très. Ça fait très peur pour le coup, mais il y a aussi quelque chose avec la biodiversité, c'est que quand il y a des solutions qui fonctionnent assez vite. On l'a vu par exemple pendant la pandémie où quand on a arrêté un petit peu de se déplacer, il y a énormément d'animaux sauvages qui sont revenus. Donc je pense que c'est pas non plus irréversible, qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en place et qui peuvent en tout cas peut-être pas refaire un état parfait, mais au moins permettre des solutions et des solutions assez rapides.
Même question, Frédéric-Jeanne Richard. Quand on est scientifique, on voit, il y a une lucidité absolue presque sur tout ça, qui évolue, mais en tout cas, vous savez beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait que vous continuez à y travailler sans perdre le moral?
L'espoir. L'espoir qu'en agissant, en facilitant la prise de conscience, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, en parlant, peut-être qu'à un moment, il va y avoir un déclic. Parce que pour moi, un monde sans pesticides de synthèse, c'est possible. Faut-il le vouloir? Faut-il que la société le veuille? Que la majorité des gens le veulent? Et d'ailleurs, il y a des élections dans peu de temps. Donc c'est le moment aussi de faire des choix, parce que certains se prononcent par rapport à ça. Donc oui, c'est... Et vous avez tout à fait raison, c'est pas facile des fois de ne pas être déprimé ou de ne pas être en colère. Même si, du coup, de temps en temps, ça arrive. Mais voilà, il faut aussi vivre avec son temps et puis essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Et on est de plus en plus nombreux.
Justement, il nous reste à peu près 1 minute 30. Ce sera ma dernière question, avec un tour de table à chacun de vous trois en 30 secondes. À quoi vous auriez envie d'inviter, d'engager les auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Pour certains, peut-être, qui se disent, non mais c'est quoi, ils sont alarmistes. Et puis d'autres, au contraire, qui sont un peu démoralisés. Alban, pour commencer.
Moi, je vais dire, je pense que la principale chose à faire, c'est de s'informer justement sur tous ces enjeux-là. Donc, vous pouvez évidemment suivre la Corneille et ses contenus d'actualité sur la biodiversité, parce que je pense que véritablement c'est comme ça qu'on va pouvoir faire évoluer les choses. Justement, c'est en s'informant un petit peu des enjeux qu'on va ensuite voter et faire pression pour des mesures plus protectrices pour la biodiversité, pour le vivant.
Lacorneille.fr, c'est ça?
C'est ça, lacorneille.fr.
En quelques mots, vraiment, Claire Carrière?
Oui, c'est tout à fait. Il faut s'informer, partir déjà aussi sur des produits issus de l'agriculture biologique. Il y a déjà des belles choses en place. On peut pas convertir toute notre alimentation peut-être sur de l'agriculture biologique, mais il y a quand même des chartes déjà bien en place. Et partir de là, c'est déjà un petit pas. Et s'informer si on va aller plus loin sur.
Merci, voilà, Claire Carrière. Merci beaucoup. Et vous, Frédéric-Jeanne Richard, en deux mots pour le coup, vraiment.
Ouais. Pour moi, tout le monde peut agir au quotidien. Il ne faut pas renvoyer la balle aux autres. Et voilà. Le changement, ça peut être maintenant.
Voilà. penser et agir. C'est formidable. On est dans le thème de l'émission. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Anne Kerléo pour
merci
cette émission. Cœur. Dans un instant, on va souffler les bougies de Laudato Si, l'encyclique du pape François qui fête ses 9 ans aujourd'hui. Une encyclique consacrée à l'écologie. À tout de suite.